Pourquoi tant d'histoires avec vous, Jacques Munier, les chemins de la connaissance. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Chemin de la connaissance, cette semaine, la vérité des mythes. Aujourd'hui, une philosophie spontanée avec Bruno Pinchard, philosophe et auteur de Méditations mythologiques aux empêcheurs de penser en rond. Le projet de votre livre ambitieux, Bruno Pinchard, Les Méditations mythologiques, qu'il faut entendre comme une variation subtile des Méditations métaphysiques de Descartes, ce projet donc est de nous reconduire dans ce que vous appelez l'étendue mythologique, afin de rouvrir le chemin qui nous lie à nous-mêmes autant qu'à l'univers. C'est pourquoi vous l'ouvrez ce livre par un constat solennel sur le refus et même le déni du pathos et de la souffrance qui caractérise notre époque. Désormais, dites-vous, il n'y aura plus de place pour le conflit inconscient. Pourtant, l'inconscient, ajoutez-vous, fut peut-être la dernière forme d'un rapport renouvelé avec le monde invisible. Bruno Pinchard.
Oui, vous citez des phrases qui ont suscité en moi une émotion intérieure. Je voulais proposer un rapport à l'inconscient qui ne passe plus par le divan analytique, quelque chose de la recherche d'une centralité à la fois inatteignable, mystérieuse et qui agisse sur l'individu comme une hantise. C'était cela le geste initial.
Alors, cet espace, cette étendue de la mythologie, le concept même d'étendue, je parlais donc d'un parallélisme avec les méditations métaphysiques de Descartes, cette étendue, c'est justement le domaine de l'âme.
Alors, j'ai essayé de ne pas me mettre en un conflit absurde et borné avec le monde moderne. Donc, j'ai voulu laisser toute sa place à l'espace comme lieu à la fois de la technique, du calcul, des trajectoires, à la fois des fusées et malheureusement des bombes. Ça, c'est la première chose qui doit être maintenue. Mais sous cet espace-là, j'ai voulu dégager un autre espace, dit mythologique, où se constituent, par une sorte de ramification permanente, les influences et les actes de l'inconscient. Il s'agit donc non pas d'un discours contre le monde moderne, mais un discours sous le monde moderne.
Alors, ce que vous appelez justement l'expérience du mystère, c'est quelque chose qui a un rapport large, évident et immédiat avec le mythe.
Oui, ce que je voudrais bien signifier, c'est que ce mystère doit être à la fois conçu comme une recomposition et une reprise de toute l'expérience romantique. Ça, c'est une première chose. Mais, et c'est là l'autre aspect de mon travail, c'est de montrer que ce romantisme doit être ou est susceptible d'être exposé dans une géométrie. Il y a une géométrie des formes mystérieuses de l'inconscient. Et par conséquent, j'ai reconstitué autant que j'ai pu les lois de bifurcation dans cet espace sous-jacent hein, qui court sous l'espace de la modernité technique.
On appellera chemin, je vous cite, hein, on appellera, ça pourrait être un programme pour cette émission d'ailleurs. Donc on appellera chemin hein, dans l'étendue mythologique les chaînes d'influx par lesquelles se propage telle ou telle vibration symbolique à l'occasion d'un événement du temps.
Oui, c'est exactement ce que j'ai essayé de transmettre. D'ailleurs, vous noterez que le mot occasion est choisi avec une certaine précision, puisque occasion signifie ici que j'entends Malebranche derrière, que c'est un occasionnalisme, figure d'un cartésianisme, si vous voulez, tendu. Hein, on pourra dire que l'occasionnalisme, c'est le cartésianisme devenant monde. Et ici, je m'en empare, non seulement pour certifier le jugement de Malebranche sur le monde technique, mais aussi pour le réimpliquer dans la sphère de cette vie intérieure de l'âme que l'inconscient manifeste.
Alors, Bruno Pinchard, on ne va pas développer le parallélisme constant donc qui s'exprime dans votre livre avec les méditations métaphysiques de Descartes, et notamment sa conception d'une physique qui serait au-delà de la métaphysique. On y reviendra peut-être. Mais peut-être pour commencer à indiquer quel a été le contexte de ce projet, de cette ambition, vous pourriez nous dire justement quelle a été pour vous cette occasion.
Alors l'occasion, elle est l'ensemble des travaux que j'ai fait antérieurement sur Dante. C'est au fond hein, la réflexion la plus rigoureuse possible de ce que c'est que pour un homme de rencontrer Dante et d'une façon plus générale encore l'Italie. Il y a donc une singularité absolue. Mais tout l'effort du livre, c'est de montrer que moi, personnellement, Bruno Pinchard, j'ai commencé avec l'Italie de Dante, mais que tout homme a son livre ou son instant à travers lequel va affleurer pour lui la vibration mythologique. Donc, si vous voulez, c'est un livre ultra singulier et c'est en même temps un livre qui fait signe, qui tend la main au fond à autrui pour que chacun trouve en lui le livre, l'instant, le lieu à partir duquel commence à s'épancher pour lui le rêve dans la vie réelle, pour reprendre la phrase de Nerval.
Mais il y a eu pour vous, Bruno Pinchard, une occasion, je dirais, plus davantage liée à un événement.
Alors, on peut dire que ce livre gravite autour du 11 septembre, c'est vrai, de deux façons. D'une part, d'une façon purement intuitive, puisque ce livre a été écrit bien avant, mais j'y cherchais, au fond, des événements physiques qui puissent avoir une diffusion et un impact symbolique. Il est évident que quand on a vu la poussière qui tombait en nappe des colonnes brisées des Twin Towers, j'avais hein, la vérification de cette puissance de diffusion. D'autre part, au moment où on corrigeait les épreuves, les événements sont arrivés et ça a été un moment, une sorte de fracture intérieure très forte hein, que de voir sur CNN ce que je semblais avoir rencontré sur un mode sous-jacent dans les années qui avaient précédé.
Quelque chose comme l'effondrement des Titans ?
Oui, bien sûr, il y a du Junger là-dedans, mais l'idée que, de même qu'il y a une tectonique des plaques pour la géographie, et que notre Terre, et en particulier notre zone à nous, marquée par l'enfoncement hein, de la plaque africaine sous la plaque européenne, de même, il y a des poussées d'une force inimaginable qui remplissent la psyché et qui s'emboîtent, créant des reliefs. Et nous, les penseurs, sommes les topographes de ces Alpes intérieures qui naissent de ce genre de rencontres.
Alors, vous évoquiez le terme de vibration pour parler, justement, en quelque sorte, du principe de catharsis du mythe.
Ben, vous le savez, Jacques Meunier, moi, je suis un musicien avant tout, et c'est vrai que j'ai l'impression de trouver l'ontologie profonde des choses quand j'en arrive au monde de la vibration. Alors cette vibration, comme vous pouvez le concevoir, c'est un aller-retour entre des termes, entre des extrêmes, comme une corde vibrante peut le manifester. Et alors mon idée, c'était que tout texte, tout site et tout symbole dont vous provenez, vous comme individu, s'ouvre immédiatement d'une bifurcation, comme un carrefour si vous voulez. Un carrefour exactement comme celui que les anciens marquaient par un dieu. Et que donc tout être humain est pris à chaque instant dans la bifurcation de ce carrefour. Et que par conséquent, vivre mythologiquement, c'est sentir l'aller et retour d'un bord et de l'autre de l'Y du carrefour et de la bifurcation. C'est ainsi que je suis entré dans cette idée de vibration recomposant mon amour de la musique et l'approfondissement de la philosophie de la mythologie.
Et puis être à l'écoute de cette vibration, c'est entendre le son qui provient du fond de l'univers.
Oui, je pense que dès lors que, si vous voulez, la grandeur de la musique, c'est que c'est une émotion d'une intimité absolue, comme chacun peut le reconnaître, mais en même temps, c'est un formant de la matière physique. Et donc, quand on entre, disons, dans la vibration d'un accord juste, très juste, il doit avoir des caractéristiques physiques qui sont accordées aux conditions anthropiques de l'univers. Alors je crois que la musique est le basculement par excellence où on passe de l'extrême subjectivité à l'extrême objectivité. Et la musique donc nous délivre, c'est ce que vous appelez catharsis, nous délivre de ce que nous pourrions avoir de narcissique dans l'expérience intérieure.
C'est l'horizon d'une pensée du mystère.
Oui, vous voyez bien, ma pensée du mystère essaye de remplacer une pensée de Dieu, il faut être bien clair là-dessus. J'ai voulu, retirer ou abolir ou effacer les limites de Dieu afin de retrouver l'immensité du mystère.
Alors, ce que vous appelez l'étendue mythique, vous dites aussi que c'est le divin en tant qu'il est participable par les mythes.
Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que Dieu est d'autant plus, fort de sa présence, si l'on veut l'appeler ainsi, si nous nous mettons en résonance avec ce qui fait que le monde n'est pas Dieu et dans lequel l'immensité est en action.
Alors quel est le statut, puisqu'on va essayer de parler de mythes concrets aussi, et pas seulement de Dante, hein, puisque vous le convoquez souvent à titre justement de passeur vers cette étendue mythologique. Je pense par exemple aux mythes de Platon, qui sont des mythes philosophiques, et en particulier au mythe de l'Atlantide. Quel statut lui voyez-vous, quel type de registre est le sien dans ces espaces mythologiques ?
Alors, mes mythes personnels, bien sûr, sont tous sauf platoniciens, puisque, comme vous le venez de le rappeler, les mythes platoniciens sont déjà extrêmement élaborés. Sont élaborés et en vue déjà d'une absorption philosophique. On peut dire que ce sont des mythes qui sont traversés par l'allégorie. Alors, on peut dire que c'est un état intermédiaire entre la spontanéité mythique et la construction conceptuelle. Cela dit, les mythes de Platon, comme est évident de le reconnaître, véhiculent tout un archaïsme, en tout cas des grandes décisions mythiques primordiales, et ça vaut la peine, effectivement, de les faire résonner et d'être capable d'en user pour la méditation mythologique.
Voilà, on va essayer de s'y employer, Bruno Pinchard, donc avec ce mythe de l'Atlantide.
Voilà quelle était l'ampleur et la nature de la puissance qui existait à cette époque dans ces régions. Et voici le motif pour lequel le dieu, d'après ce qu'on raconte, l'assembla pour la diriger contre nos contrées. Pendant de nombreuses générations, tant que la nature du dieu domina en eux, les rois restèrent dociles à la voix de leurs lois et gardèrent de bonnes dispositions à l'égard de l'élément divin auquel ils étaient apparentés. Leur pensée était vraie et grandiose en tout. Ils se comportaient avec calme et sagesse, aussi bien à l'égard des constantes vicissitudes de la vie que les uns à l'égard des autres. Aussi, dédaignant toute chose à l'exception de la vertu, ils n'estimaient guère leur prospérité et supportaient facilement, comme un fardeau léger, le poids de leur or et de leurs autres biens. Au contraire, ils ne se laissaient pas griser par la mollesse qu'entraîne la richesse, ni ne perdaient le contrôle d'eux-mêmes. Ils ne titubaient pas. Sobres, ils voyaient clairement que tous ces avantages s'accroissent par une amitié réciproque, unie à la vertu. Tandis que leur poursuite et l'estime qu'on leur porte les font perdre, et la vertu avec eux. Voilà par quel raisonnement, et grâce à la présence de quelle nature divine, tous les biens que nous avons auparavant passés en revue s'accroissaient à leur avantage. Mais quand la part divine vint à s'étioler en eux, pour avoir été mélangée maintes fois avec maint élément mortel, et quand le caractère humain l'emporta, alors, incapables désormais de supporter le poids de leurs conditions, ils tombèrent dans l'indécence, et aux yeux de celui qui fait preuve de discernement, parce qu'ils avaient laissé se corrompre les plus beaux des biens les plus estimables, ils apparurent infâmes. Tandis qu'aux yeux de ceux qui sont incapables de discerner le genre de vie qui conduit véritablement au bonheur, ils semblaient alors parfaitement beaux et heureux quand ils étaient rassasiés de leur injuste convoitise et de leur puissance. Le dieu des dieux, Zeus, lui qui règne par les lois, parce qu'il avait le pouvoir de percevoir ce genre de choses, compris combien cette race douée de toutes les qualités était devenue misérable. Il voulut leur appliquer un châtiment afin de les faire réfléchir et de les ramener à plus de modération.
Voilà le mythe de l'Atlantide par Platon. Est-ce que vous diriez, Bruno Pinchard, que c'est un mythe maniériste, c'est-à-dire qui, dans le fond, produit une idée de l'archaïque ?
Oui, c'est assez juste. Je le préciserai en ces termes. C'est que, comme vous le savez, cet épisode entre à l'intérieur d'une représentation de la guerre entre les valeurs de la terre, les valeurs continentales, et les valeurs de la mer, qui sont des valeurs de dispersion aux yeux de Platon, de ce mauvais multiple qui fait perdre sa divinité aux formes. Alors mon principe, c'est de montrer que cette colère de Platon contre la mer, ce dessein que la philosophie nourrit depuis lui de lutter contre la mer, est précisément ce qui est la trace de son caractère très élaboré, intellectualisé, et que notre tâche à nous qui cherchons à entendre des mythes vraiment archaïques, c'est de libérer la mer. je reprends là tout à fait l'idée de Ferenczi dans Thalassa, hein, retrouver la dimension maritime. Donc il faut inverser le mythe platonicien pour lui donner sa véritable puissance mythologique et œuvrer en faveur de la mer et aux dépens de la terre. C'est-à-dire au fond, déclarer une guerre inverse à celle que Platon et Athènes, selon Platon, a déclaré à l'Atlantide, non pas la victoire des terres émergées sur la mer, mais la revendication de la vague sur les terres continentales privées de l'eau de mer.
Au même temps, Bruno Pinchard, c'est d'une certaine façon un mythe d'origine pour la philosophie elle-même, pour la sagesse en tout cas.
Oui, mais comme vous le voyez bien, la méditation mythologique essaye de recommencer autrement la philosophie. Je crois que les choses doivent être bien claires. Il y a bien sûr dans les tâches d'un philosophe contemporain à remémorer jusqu'à sa plus extrême précision l'ordre de la pensée philosophique. Mais il me semble que l'heure est venue, et je ne suis certainement pas le premier à le déclarer, qu'il faut tenter de reprendre un mouvement qui soit non pas de destruction de cette tradition, mais qui en tente l'inversion. Et donc cette inversion permet exactement comme dans une figure géométrique, vous voyez, on ne voit plus la forme mais on voit le fond. Et c'est ce fond qui m'intéresse.
Voilà. Vous dites aussi, Bruno Pinchard, que c'est dans le fond la nature que nous retrouvons à travers son enveloppe mythique.
Oui, je
sans parler des éléments, l'eau,
oui,
la
bien
mer,
sûr, il s'agit, bien sûr, c'est pas une nature, comment dirais-je, physique, une nature immédiate, mais c'est la nature des paysages, c'est la nature cosmique, et je crois qu'en effet, quelqu'un qui saurait prendre le parti de la mer face à la terre aurait beaucoup de choses à nous dire.
C'est dans le fond une sorte d'écologie première que vous préconisez pour reprendre le parallélisme avec Descartes dont on avait donc intitulé les méditations métaphysiques, méditations de philosophie première.
Oui, bien sûr, écologie première, c'est une assez belle formule. D'ailleurs, je trouve que vous avez des formules qui me conviennent. Vous avez parlé aussi tout à fait en commençant notre débat de philosophie spontanée. C'est aussi un beau mot d'ordre. Alors, on dira une écologie spontanée. Si on entend par spontané, justement, ce moment où la puissance mythologique peut agir dans sa puissance de construction d'un monde.
Bruno Pinchard, vous évoquez aussi René Guénon, le géomètre et métaphysicien du monde symbolique, mais je pensais en vous lisant également à Henri Corbin et à sa dimension d'imaginal, dans le fond c'est un peu la même étendue mythologique qu'on cherche à ouvrir.
Bien sûr, Guénon a été une rencontre éblouissante et ma dette est immense, d'autant plus que ce livre a été en partie écrit à Blois et que je l'ai fait en proximité avec ce que Guénon a pu devoir à Blois, à Chambord, à la Sologne. Et donc, Guénon, on n'est jamais oublié dans ce livre. Et d'ailleurs, l'idée de rechercher une géométrie du symbolique appartient vraiment à cette tradition intellectuelle. Simplement, ce qui est distinct de Guénon, c'est que, d'une part, je ne crains pas les mystères de la nature. Lui veut des mystères uniquement métaphysiques, ou du moins court aux mystères métaphysiques, alors que je pense que notre temps a besoin de déployer ou de libérer des mystères naturels, intérieurs même à l'économie de la matière. Et d'autre part, Guénon ne conçoit que des transmissions mythologiques régulières. Les autres lui semblent absorbés, si vous voulez, par de grands risques, au fond, de perturbations qu'il appelle la contre-initiation. Et pour ma part, peut-être confiant en une conception de l'initiation plus contradictoire, je pense que la contre-initiation, comme il l'appelle, c'est-à-dire en fait la perturbation dans la transmission, fait partie de la transmission. Et donc, à ce titre, je défendrais, si vous voulez, un guénonisme plus en mouvement que celui que le maître du Caire a pu nous transmettre. Quant à Corbin, bien sûr, simplement la grande différence, vous voyez, c'est que l'imaginal dans lequel Corbin met toutes ses forces, ici, je lui redonne une nature à la fois spatiale et physique. Je ne m'en tiens pas donc à une philosophie de l'imagination, hein, j'essaie de retrouver des formants plus structuraux, plus organisateurs. Il y a une ambition d'un rationalisme chez moi.
Oui, et une véritable physique des forces.
Oui. Je pense, bon, ici, on peut dire que cette physique des forces, elle vient dans l'écho de celui qui fut mon maître, c'est-à-dire René Thom. Je crois que sa théorie de la physique qualitative...
Le grand mathématicien.
Et oui, René Thom, ce fut la grande espérance, en tout cas, que j'ai eue et que j'ai toujours, de trouver une géométrie du symbolique. Elle est... si vous voulez, suscitée par Guénon, on veut bien l'entendre, mais elle est rationalisable sous la raison des théories de la morphologie de René Thom. Et donc, j'essaye de ne jamais quitter l'un pour l'autre et réciproquement.
Et notamment sa théorie des catastrophes.
Et oui, la catastrophe, justement, est la géométrie hein, d'espace qualitatif. Et c'est lui qui m'a enseigné l'idée qu'il y avait une géométrie du sémantique. Et qu'il n'y ait pas de géométrie que des événements purement quantitatifs d'un espace donné. Il y a des espaces qualitatifs.
Bruno Pinchard, on va évoquer ce que vous appelez la physique du rêve, mais auparavant, voici un deuxième grand mythe de Platon, le mythe d'Er.
Il s'agit du récit d'un homme vaillant, dont le nom était Er, fils d'Arménios, originaire de Pamphylie. Il se trouve qu'il mourut au combat. 10 jours avaient passé quand on vint ramasser les cadavres déjà putréfiés. Mais quand on le releva, lui, il était bien conservé. On le porta chez les siens pour les funérailles, mais le 12e jour, alors qu'on l'avait placé sur le bûcher funéraire, il revint à la vie. Et une fois revenu à la vie, il raconta ce qu'il avait vu là-bas. Aussitôt qu'elle se fut détachée de lui, dit-il, son âme s'était mise en chemin en compagnie de plusieurs autres. Elles étaient parvenues dans un endroit prodigieux, où il y avait dans la terre 2 ouvertures contiguës et dans les hauteurs du ciel 2 autres ouvertures situées juste en face. Des juges siégeaient dans l'espace intermédiaire entre ces ouvertures. Ceux-ci, quand ils avaient prononcé leur jugement, ordonnaient aux justes de prendre le chemin qui, vers la droite, montait pour entrer au ciel, leur ayant attaché sur le devant des indications concernant l'objet de leur jugement. Aux injustes, ils ordonnaient de prendre le chemin qui, vers la gauche, va vers la région inférieure. Et ceux-là avaient dans le dos des indications concernant tout ce qu'ils avaient fait. Comme il s'approchait à son tour, on lui dit qu'il lui fallait devenir le messager auprès des hommes de ce qui se passait dans ce lieu. Et les juges lui prescrivirent d'écouter et d'observer tout ce qui se passait dans cet endroit.
Un peu comme vous, Bruno Pinchard, lorsque vous revenez de ces étendues mythologiques.
Jacques Meunier, je tiens à vous dire que ce texte est le texte des textes. C'est peut-être le texte absolu des transmissions méditerranéennes, c'est-à-dire c'est le texte orphique qui unit Homère, Virgile et Dante et leur dessine là encore cette géométrie polaire que nous évoquions tout à l'heure. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous, il n'y a pas d'expérience mythologique un peu sérieuse qui ne passe par une descente aux enfers et qui ne demande, comme le dieu le demandait à l'instant, cette parfaite vigilance dans l'outre-tombe. Vous savez, pour pouvoir faire de la philosophie aujourd'hui, il faut être un peu mort. Et il n'y a que les gens, comment dirais-je, d'une ingénuité troublante qui ont bonne mine aujourd'hui.
Alors, vous employez le terme, Bruno Pinchard, de physique du rêve. Et il est vrai que cette physique, vous la cherchez au-delà des métaphysiques du rêve qui ont été nombreuses au XXe siècle.
Mais oui, toujours pour la même raison que je ne veux pas passer par Jung, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure à propos de Corbin, c'est-à-dire que je cherche toujours s'il n'y a pas un substrat physique et géométrisable à une action. Et d'un autre côté, je ne veux pas de la physique de Freud, c'est-à-dire d'une physique, disons, thermodynamique, anthropique, comme celle que livrait la fin du XIXe siècle. Alors, nous retrouvons notre idée, l'étendue mythologique, c'est l'espace des attractions physiques dans lequel a lieu cette géométrie des bifurcations que Thom a pu transmettre par ses mathématiques. Donc, c'est une physique non matérialiste. On pourrait dire que c'est une physique idéaliste, si les deux mots peuvent s'associer.
Alors, c'est ce que vous appelez l'horizon du mystère aussi. Et évidemment, le mystère nous renvoie à quelque chose de mystique et de religieux.
Oui, bien sûr. Et si on poursuit le livre jusqu'à sa conclusion, vous vous souviendrez sans doute que il y a une véritable révélation à la fin du livre. Le problème, c'est qu'à la différence du livre de Job où c'est Dieu qui se révèle à la fin, ce qui se révèle à la fin du livre, c'est le mal. On pourrait donc dire que toute l'action mythologique qui a été développée dans tout l'ensemble de l'ouvrage ne fut, à certains égards, que le développement total, rigoureux et implacable du mal sur le monde. Et j'essaie d'affronter cette hypothèse. On dira donc qu'il y a une épiphanie dans mon livre du religieux, mais que cette épiphanie, en moi, vieux sorcier normand, ne pouvait être qu'une épiphanie d'abord du mal. Et j'essaye de l'assumer à la suite d'un Barbé d'Aurevilly, par exemple, bien sûr en pensant quel poids de mal notre siècle précédent a traversé. Et je ne veux pas faire de la philosophie, de la mythologie sans me souvenir de ce que les mythes ont pu faire dans des grandes exterminations comme celle de la Shoah. Il faut aussi assumer la gravité du mythe dans sa dimension politique.
Et puis cet effondrement des preuves, comme on pourrait dire à la suite de René Char, cet effondrement mythique presque qu'a constitué l'événement du 11 septembre, c'est quelque chose qui nous permet d'entrevoir la puissance d'épiphanie justement du mythe.
Oui, bien sûr, il y a que les naïfs pour croire que le mythe n'agit pas, hein, et qu'il n'agirait que sur les enfants. Non, je pense que c'est la causalité formelle suprême. Et que c'est pas pour rien que justement le débat porte sur la question du recueil des mythes dans un livre, parce qu'au fond, nous appartenons tous essentiellement à un livre, et ce qu'on appelle superficiellement le choc des civilisations, c'est simplement un débat sur la façon dont il faut lire le livre. Au fond, faut-il le lire de gauche à droite ou de droite à gauche? Voilà pourquoi la planète se fracture.
Si vous voulez bien, Bruno Pinchard, finissons sur une note plus légère, tout en restant dans les mythes platoniciens. Voilà le mythe fameux d'Aristophane dans Le Banquet.
La forme de chaque être humain était celle d'une boule avec un dos et des flancs arrondis. Chacun avait quatre mains, un nombre de jambes égal à celui des mains, deux visages sur un couron, avec, au-dessus de ces deux visages, en tout point pareils et situés à l'opposé l'un de l'autre, une tête unique, pourvue de quatre oreilles. En outre, chacun avait deux sexes, et le reste à l'avenant, comme on peut se le représenter à partir de ce qui vient d'être dit. Il se déplaçait en adoptant une station droite, comme maintenant, dans la direction qu'il désirait. Et quand il se mettait à courir vite, il faisait comme les acrobates qui font la culbute en soulevant leurs jambes du sol pour opérer une révolution avant de les ramener à la verticale. C'est alors que Zeus et les autres divinités délibérèrent pour savoir ce qu'il fallait en faire. Et ils étaient bien embarrassés. Après s'être fatigué à réfléchir, Zeus déclara « Il me semble, dit-il, que je tiens un moyen pour que, tout à la fois, les êtres humains continuent d'exister et que, devenus plus faibles, ils mettent un terme à leur conduite déplorable. En effet, dit-il, je vais sur le champ les couper chacun en deux. En même temps qu'ils seront plus faibles, ils nous rapporteront davantage, puisque leur nombre sera plus grand, et ils marcheront en position verticale sur deux jambes. Mais s'ils font encore preuve d'impudence, et s'ils ne veulent pas rester tranquilles, alors, poursuivit-il, je les couperai en deux encore une fois, de sorte qu'ils déambuleront sur une seule jambe à cloche-pied. Cela dit, il coupa les hommes en deux, ou comme on coupe les œufs avec un crin.
Voici, dans l'atmosphère du banquet de Platon, on peut dire, Bruno Pinchard, une parodie de mythe d'origine.
Mais Jacques Meunier, vous êtes un peu sorcier parce que vous m'obligez déjà à parler de Rabelais, parce qu'évidemment, il n'y a que Rabelais qui a entendu cette histoire dans toute son ampleur qui propose au fond que cette vibration du fond du monde soit la vibration d'une coupure sexuelle. Et là, c'est la grande chance, au fond, que ces espaces mythiques nous ouvrent. Est-ce qu'on pourrait penser, hein, cette coupure autrement qu'une castration? Est-ce qu'on pourrait vivre la bifurcation originelle des êtres humains autrement que comme un jeu de deuil? Eh bien, ce serait la promesse que Rabelais pourrait contenir en réponse à des méditations mythologiques pour tant de catastrophes.
Merci Bruno Pinchard. Je rappelle que vous êtes philosophe et que vous avez publié Méditations mythologiques aux empêcheurs de penser en rond. Christophe Bro a lu les textes. C'était une philosophie spontanée, quatrième volet de cette série consacrée à la vérité des mythes que nous retrouverons demain avec le